J'ai commencé cette étude, juste pour rappeler le contexte, hein, parce qu'il est facile de parfois d'être trop ciblé sur le verset qu'on est en train de voir en question, etc., en sortant du contexte de l'étude elle-même, et de savoir que le tout, c'est cette vérité que le Seigneur nous enseigne à deux ou trois reprises, hein, que lui désire que nous, en tant que ses enfants, qu'on soit, le terme qu'il utilise, rempli de l'Esprit, d'être contrôlé ou d'être soumis au Saint-Esprit qui est en nous. On l'a dit la dernière fois, contrôler ne veut pas dire qu'on n'a pas de libre choix, c'est pas cela. Mais c'est ce que ce mot dicte, et on comprend qu'il parle de soumission. Et de la même manière qu'un enfant devrait avoir, on le dit dans notre parole, il est contrôle ton enfant. Et que l'enfant, quand il entend que le père ou la mère lui dire arrête, tiens-toi tranquille, etc., ben, il doit obéir, il doit se soumettre et obéir. C'est cette même idée. Le Saint-Esprit est là, constamment en train de nous diriger, en train de nous conseiller, en train de nous dire ne fais pas ceci ou réponds de cette façon. Il est constamment en train de nous parler. Et d'avoir, si, le plus qu'on apprend à l'écouter, dans le but de l'obéir, de nous soumettre à sa volonté, ben le plus que ça va produire le fruit de l'esprit en nous. Et on sait que, oui, quand on lit la liste des choses du fruit de l'esprit, hein, l'amour et la bonté, la patience, oui, même les inconvertis peuvent montrer de l'amour et de la patience, mais ce n'est pas le fruit de l'esprit. On parle le fruit de l'esprit, du Saint-Esprit. Donc ce fruit, il est divin. Il est normal que l'homme ne peut pas produire ce qui est divin par les forces de l'homme. Seul un acte divin peut produire un résultat divin. Ce que l'homme peut faire dans l'amour et la patience et un peu de contrôle de soi, etc., c'est un faux semblant, c'est une pâle imitation de ce que le Saint-Esprit veut faire dans la vie, dans le cœur du croyant. On avait commencé ces études en parlant justement des tempéraments qu'on a tous. On a tous un tempérament un peu différent l'un de l'autre. On a parlé des qualités. Tout tempérament a de très bonnes qualités, de choses qui nous aideront à nous soumettre plus facilement pour certains fruits de l'esprit que d'autres. Et on a également dans ce même tempérament des côtés bien négatifs, des choses qui vont faire obstacle, qui vont faire que ce soit plus dur pour nous de nous soumettre régulièrement à ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner et à ce fruit qu'il veut faire pousser en nous à cause du tempérament que nous avons. Mais on voit également, hein, l'un des raisons, le but de cette étude, c'est de voir que justement, malgré, mais aussi avec le tempérament. C'est le Saint-Esprit ne veut pas ignorer le tempérament que nous avons, mais il veut utiliser aussi bien les qualités que Dieu nous a données à travers les tempéraments que les choses négatives. Il ne veut pas dire, je t'ai déjà donné une qualité tellement bonne dans ce domaine-là que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour ça dans ta vie. Non, c'est juste que le Saint-Esprit va prendre cette bonne qualité et la rendre tellement meilleure si on veut bien s'y soumettre, et parce qu'on est déjà un tempérament penchant dans cette direction, on aura une plus grande facilité à le laisser nous travailler pour rendre cette qualité encore meilleure. Et il veut pas ignorer nos défauts non plus, mais il va pas vouloir utiliser nos défauts comme étant une excuse. Ouais, je sais que ça c'est plus dur pour toi, alors c'est pas grave si t'es pas. Si tu n'y arrives pas aussi bien. Non, il va nous aider à nous débarrasser de ces choses pour que lui, le Saint-Esprit, transcende nos défauts pour justement produire ce fruit de l'Esprit dans notre vie. On l'a dit, on l'a déjà enseigné, hein, que le terme qui est utilisé, soyez remplis, on a décortiqué le verbe, le temps, etc., où c'était. C'est comme s'il disait, pendant que vous êtes en train d'être rempli, continuez à vous laisser remplir d'eux. C'est un acte continu. perpétuel. Et justement, quand on parle du fait d'être rempli sous cette forme d'être soumis, bah, on comprend que c'est perpétuel, que c'est quotidien. C'est pas parce que j'étais obéissant quand j'étais enfant à mes parents hier que je vais automatiquement l'être aujourd'hui ou que je le serai automatiquement demain. Mais à chaque situation, avec chaque émotion qui fait surface, à chaque demande que me font mes parents, même peu importe ce que c'est, bah, il faut que je refasse ce choix de me soumettre volontairement et avec joie. Ça, ce qui n'est pas toujours facile. Et là, on était en train de voir plus précisément hein, ce à quoi on peut s'attendre. Si on arrive à ce point où on dit, d'accord, je dois être rempli du Saint-Esprit, il faut que je me laisse contrôler et que je volontairement me soumette à sa volonté, toute sa volonté, tout le temps. Que puisque Dieu me demande de le faire, c'est donc quelque chose de possible d'acquérir. Et que c'est quelque chose que je dois travailler, c'est comme il dit, hein, cette perfection qu'on doit atteindre, qu'on doit viser. Et on a déjà vu deux des quatre choses auxquelles on peut s'attendre, que les neuf caractéristiques du fruit de l'Esprit seront visibles dans notre vie. Si on est vraiment rempli du Saint-Esprit, si on est vraiment soumis à lui, ben, ça ne peut pas être une soumission partielle. C'est que ce n'est pas juste les traits, les caractéristiques du fruit de l'esprit qui sont parallèles avec mes traits positifs de mon caractère qui vont être visibles, c'est tous les neuf. Et on l'a déjà parlé la semaine dernière. On a également vu, on avait terminé sur le fait que on aura un cœur joyeux, reconnaissant et automatiquement donc un esprit soumis. Que ce ne sera pas une soumission contre cœur. Ça ne sera pas hein, le soldat qui obéit aux ordres et qui va râler parce qu'il est en train d'éplucher les patates. Non, on écoute, on est à l'écoute. Ce n'est pas lui qui essaye d'attirer notre attention, mais on est déjà en train d'être attentif à sa présence parce qu'on désire l'écouter. On voit tous les bienfaits. Que ça nous fait même nous, sans parler du bienfait que ça fait à ceux qui sont autour de nous, du fait que nous sommes remplis, soumis, obéissants au Saint-Esprit qui est en nous. Et donc, ce cœur joyeux, il sera visible, il sera naturel, ce ne sera pas forcé. Les chrétiens qui, eux, ne le sont pas, pourraient essayer de nous blâmer en disant « t'es un hypocrite, c'est faux, tu exagères ». Mais c'est jamais l'autre chrétien qui lui aussi est rempli du Saint-Esprit qui accusera un autre chrétien de l'être. C'est toujours le chrétien qui ne l'est pas qui va accuser le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit que c'est un faux jeton, qui fait semblant. C'est jamais dans le sens inverse. Mais donc on continue. Hein. Ce à quoi on peut s'attendre quand on est vraiment réellement soumis au Saint-Esprit, c'est on aura également cette puissance que le Saint-Esprit nous donne dans notre témoignage. Et on connaît Actes chapitre 1er verset 8, hein, mais vous recevrez une puissance. Et pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il dit tout de suite qu'est-ce que c'est. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. On peut pas, il n'y a pas d'argument sur oh, « il est en train de parler d'autre chose », non. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc il fait la connexion, la puissance du Saint-Esprit témoigner. Il ne dit pas, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pour vous aider à être fidèle à l'Église. Bon, il le fera ça aussi, mais il met l'accent sur, à ce moment-là, qu'est-ce qui était important? Ils avaient besoin de propager l'Évangile. Il dit, la puissance que vous aurez à pouvoir témoigner avec force, ben, elle se trouve dans le Saint-Esprit que je vais vous donner pour être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il faut bien comprendre, si la puissance c'est le Saint-Esprit, ça veut automatiquement dire que cette puissance, elle est illimitée, n'est-ce pas? Elle est sans limite. qu'il n'y a rien de plus puissant que la puissance que Dieu nous donne. Le Saint-Esprit, on l'a déjà dit, est Dieu. Ce n'est pas un Dieu, mais il est Dieu. Il est, quand on parle de Dieu, souvent on dit « Dieu, il est tout-puissant ». Oui, ben, ça veut dire que le Saint-Esprit est tout-puissant. Ça veut dire que Jésus-Christ est tout-puissant. Le Saint-Esprit l'est aussi. Mais malgré le fait que la puissance qu'il nous donne est une puissance illimitée, il nous laisse, nous, mettre une limite à cette toute-puissance. Il nous laisse, nous, définir quelle limite, qu'est-ce qu'il peut faire à travers nous, soit par notre foi ou manque d'eux. Rappelez-vous des disciples, hein? Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser ce démon? Première réponse, genre peu de foi. Pour combien de temps est-ce que je vais souffrir de vous avoir avec moi? Il dit, vous aviez la puissance de le faire. Votre foi a mis la limite pour l'empêcher. Ce n'est pas que vous ne pouviez pas, parce que la puissance ne vient pas de vous. Elle vient du Saint-Esprit que je donne. Et Jean chapitre 16, verset 7 nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, hein, Christ qui parle à ses disciples, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc Christ savait à quel point ses disciples avaient besoin du Saint-Esprit pour pouvoir mener à bien la responsabilité, les responsabilités qu'ils vont avoir de pouvoir témoigner, propager l'Évangile de partout le monde. Et dit-il, tant que moi je reste, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Il faut que je parte. Tant que je suis parmi vous, vous allez toujours dépendre de moi. Et jusqu'à présent, oui, les disciples, ils avaient toujours eu Christ avec eux. C'est Christ qui est venu vers eux pour les chercher, n'est-ce pas? C'est lui qui est allé vers eux et dit, « Venez, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. » C'est pas... Et Jésus savait que son temps était proche et qu'il ne serait plus présent avec ses disciples. Et jusqu'à maintenant, les disciples avaient l'occasion de voir de leurs propres yeux, d'entendre leurs propres oreilles, ce que Christ faisait, comment il le faisait, et même souvent, pourquoi. Souvent, à quelques reprises, on voit dans les évangiles où Christ les prenait à part pour les expliquer ce que les autres n'entendaient pas. Il dit, mais explique-nous pourquoi ceci. Et il prenait le temps de leur expliquer pas mal de choses. Pas tout, mais quand même beaucoup. Christ enseignait les disciples en public et également en privé. Et alors avant de partir, Christ donne l'instruction. Ça c'est le verset qu'on a dit tout à l'heure, c'est en verset 8. Quatre versets juste avant, Actes chapitre 1, verset 4, il dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Donc quatre versets plus loin, il leur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Sans la puissance du Saint-Esprit, toute la formation que les disciples avaient eue en étant avec Christ était à elle seule incapable de produire le fruit qu'ils vont avoir besoin, juste parce qu'ils ont suivi ce 3 ans de séminaire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien appris pendant ces 3 ans, loin de là. Mais on connaît également le reste de l'histoire, n'est-ce pas? Au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et la puissance du Saint-Esprit n'a pas pris beaucoup de temps pour se manifester à travers les disciples, surtout à travers la prédication, le témoignage, au point où 3000 personnes se sont converties en une seule journée, n'est-ce pas? Ça ne venait pas des disciples. La seule différence, le Saint-Esprit était enfin venu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit pour pouvoir témoigner avec force et avec puissance. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre ce troisième point de qu'est-ce qui va arriver quand nous, on est réellement soumis au Saint-Esprit. Ben, cette puissance, elle sera beaucoup plus facilement disponible à notre disponibilité pour pouvoir témoigner avec efficacité. Parce que cette puissance n'était pas destinée seulement et seule pour les disciples. Cette puissance n'est pas la leur pour eux de garder pour eux et ça y est, personne d'autre ne pouvait avoir. Nous avons ce même Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, lui, il a toujours les mêmes désirs. Le désir de plaire à Dieu le Père, le désir de témoigner de son salut. Le Saint-Esprit n'a rien perdu en puissance, ni en capacité, juste parce que quelques milliers d'années sont passées. Mais quand nous sommes, nous, remplis, contrôlés, soumis au Saint-Esprit, lui, il prendra plaisir de nous aider à pouvoir nous exprimer, de partager, de témoigner avec force. Et la personne avec le tempérament le plus réservé ou le tempérament le plus égoïste, le Saint-Esprit l'aidera à témoigner avec force et avec conviction quand même. Mais il faut le vouloir, il faut l'accepter. La capacité est là. Le Saint-Esprit est présent dans le cœur de chaque croyant. Mais c'est comme pour le salut. Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il nous laisse le libre choix. Même après notre salut, il nous laisse montrer que c'est notre choix de vouloir nous soumettre au Saint-Esprit. Il attend que ce soit notre volonté. Et c'est pour cette même raison qu'une personne peut recevoir l'Évangile par une personne qui, elle, est remplie du Saint-Esprit. Donc, il peut témoigner avec force et avec puissance, mais la personne qui écoute refusait quand même le salut. De la même manière qu'un chrétien qui est réellement né nouveau et donc qui a le Saint-Esprit en lui, peut en arriver à vivre quand même en dehors de la volonté de Dieu. C'est une chose qu'on apprend par rapport à cela, c'est qu'on peut en conclure que puissance ne garantit pas succès. C'est bien de savoir que notre force ne se trouve pas en nous, en notre tempérament, dans nos qualités. Elle se trouve dans le fait que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force et que sa force et sa puissance est illimitée. Ça nous encourage. Mais puissance ne garantit pas succès, sinon Christ aurait converti le monde quand il était sur terre. Quelle plus grande puissance que celui-là? Parce que non seulement est-ce qu'il est tout puissant, mais il est également sans défaut. Et le Saint-Esprit, même s'il est tout puissant, l'homme peut lui résister quand même parce que Dieu le permet. Je ne dois pas donc juger la puissance du Saint-Esprit par les résultats, mais accepter que rien ne lui est impossible. C'est juste que Dieu ne désire pas enlever le droit de l'homme au libre choix. Mais encore, pour notre contexte de notre étude, il est vrai qu'une vie chrétienne remplie du Saint-Esprit va produire du fruit divin, du fruit de l'Esprit. Et c'est le résultat logique. Vous connaissez peut-être Jean chapitre 15, verset 14, verset 4, 5 et 8. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Encore une fois, il faut prendre ce passage dans son contexte. Sans lui, il nous est impossible, complètement impossible de produire le fruit de l'Esprit. C'est un fruit divin. Comment est-ce que moi, un homme, par mes actes humains, puisse avoir comme résultat un résultat divin? C'est pour ça que, même pour nous qui témoignons et partageons l'Évangile, si quelqu'un reçoit le salut, ce n'est pas nous. C'est la puissance de l'Évangile et la conviction du Saint-Esprit dans le cœur de cette personne, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que le messager. Et quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », n'est-il pas en train de parler dans le contexte direct, d'être attaché au cep, le cep attaché au sarment, car avec lui on portera beaucoup de fruits, mais que sans lui, nous est impossible de porter le moindre fruit, surtout le fruit de l'Esprit. Il me paraît maintenant que c'est logique pour Christ de dire à ses disciples que Dieu est glorifié quand eux, ils portent beaucoup de fruits. Dit, vous portez du fruit, ça glorifie Dieu parce que ça montre le résultat que le Saint-Esprit fait en vous. C'est normal que ce ne soit pas vous qui êtes glorifié parce que vous portez du fruit, parce que vous ne pouvez pas porter ce fruit de par vous-même. C'est Dieu qui est glorifié pour avoir porté ce fruit parce que c'est Dieu qui fait ce travail en vous. Si c'était moi qui faisais ce travail, c'est moi qui mériterais d'être glorifié, n'est-ce pas? Il vient de leur rappeler au verset 4 qu'ils ne peuvent pas produire le moindre fruit, mais par leurs propres efforts personnels. Mais celui qui est attaché à Christ en portera beaucoup. Et bien sûr que Dieu le Père va être glorifié par cela. Ce qui nous amène facilement au prochain point, hein, que quand nous sommes remplis de l'Esprit, c'est que notre vie va automatiquement commencer à glorifier Dieu, glorifier Christ. Notre vie glorifiera Christ. Notre vie, on l'a vu il y a deux dimanches de cela dans la prédication de mettre Christ au centre de notre vie, où c'est justement, on fait de lui notre tout, que ce n'est plus nous le plus important. Ce n'est pas le moi qui est au centre de mon petit univers, mais c'est lui. On va faire ça rapidement. Jean chapitre 16, verset 13-14. « Quand le Consolateur sera venu, » donc il parle encore une fois, hein, « Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, nous devons toujours garder en tête un principe fondamental concernant l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne cherchera jamais à nous glorifier, nous. Le Saint-Esprit ne cherche jamais à glorifier le chrétien. Il fera énormément de bonnes choses pour nous. Il va nous consoler, il va nous réconforter, il va nous guider, il va nous enseigner, plein de choses. Mais il ne va pas nous glorifier, nous. Il ne va même pas essayer de se glorifier lui-même. Par contre, il rendra toujours honneur à la personne de Christ. Son désir est de nous aider, de nous encourager, toutes ces choses, mais toujours dans le but ultime de nous former, de nous transformer à l'image de Christ. Il n'est pas étonnant donc que le Saint-Esprit rend le croyant plus conscient du Seigneur que de lui-même. Que le Saint-Esprit nous aide à rester éloignés du péché, à agir et à réagir d'une façon qui plaise à Dieu, et non selon, bien entendu, notre chair. Donc, pour résumer, de ce qu'on peut s'attendre quand on est rempli de l'Esprit, pour faire simple, ce sont les 9 caractéristiques du fruit de l'Esprit qui se manifesteront dans notre vie, pas juste quelques-uns. Un cœur, oui, on aura un cœur qui chante, qui loue Dieu, qui sera réellement heureux, rempli de douceur, tendre, docile, ainsi que mélangé avec une certaine puissance dans notre témoignage. On peut se montrer convaincant sans se montrer arrogant. Parce que la raison qu'on veut convaincre, c'est parce qu'on veut le bien de la personne et non montrer qu'on a raison, qu'on a pu gagner le débat. Chaque chose que nous ferons, aussi bien en action qu'en motivation, seront dans le but d'élever Christ et non de montrer ce que nous savons, de glorifier Dieu et non pour mettre l'accent sur notre personne ou autre chose que l'approbation même de Dieu. Donc, ça, c'est 4 choses, on pourrait certainement en mentionner plus, mais 4 choses, ce à quoi on peut s'attendre quand on arrive à ce stade où on accepte volontairement de laisser vraiment le Saint-Esprit agir dans notre vie sans que ce soit nous qui lui mettions les bâtons dans les roues, ou que ce soit plus nous qui mettions ses limites dans ce que lui veut faire dans nous et à travers nous. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires avant qu'on termine ?